un podcast France Culture.
Dans Le Joueur, paru en 1866, Dostoïevski ne parle jamais de casino, mais de salons de jeu, des salons fréquentés par des gentlemen qui, selon le narrateur, ne sont là, je cite, que pour étudier le processus du gain et de la perte, et jamais pour le désir plébéien de réaliser un profit. Un siècle et demi plus tard, l'industrie du casino s'est popularisée et elle s'est mondialisée. De Las Vegas à Macao, en passant par Chypre et Phnom Penh, des salles de jeu toujours plus gigantesques voient le jour, malgré la concurrence de plus en plus forte du casino en ligne. Pour ce troisième épisode de notre série sur l'économie des jeux, nous avons invité Pascale Nedelec, géographe, enseignante en classe préparatoire, chercheuse associée au laboratoire Mosaïque à l'Université Paris-Nanterre, autrice de cet ouvrage « Las Vegas dans l'ombre des casinos, déconstruire l'urbanité et la citadinité végasienne » paru aux presses universitaires de Rennes. Également avec nous à distance, Marie Redon, géographe, maîtresse de conférences à l'Université Sorbonne Paris-Nord, membre du laboratoire Pléiade, autrice avec Boris Lebeau d'une géopolitique des jeux d'argent, sous-titré « Les enjeux d'une mondialisation silencieuse » paru au Cavalier Bleu. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Milliot, Laurence Jeunepin, Léopold Thiévan et Inès Gender.
Partout ailleurs dans le pays, j'étais bouc. Un joueur obligé de regarder tout le temps par-dessus mon épaule, emmerdé jour et nuit par les flics. Mais ici, je suis Monsieur Rothstein. Non seulement j'ai un boulot régule, mais je fais tourner un casino. Autrement dit, je vends aux gens des rêves payables comptant. J'ai fait venir un vieux pote de casino, Billy Sherbert. Je l'ai bombardé gérant et je me suis mis au taf. Question moralité, c'est comme un lavage de voiture. Ça remplit la même fonction que Lourdes pour les bossus et les estropiés. Et en plus de nous blanchir, il y a le pognon. Des tonnes de pognon. Qu'est-ce que vous croyez qu'on vient foutre en plein milieu du désert? On est là pour le fric. C'est ça le résultat final de tous les néons, de tous les voyages gratuits, de tout le champagne et de toutes les suites d'hôtels offertes par la maison, de toutes les poules et toute l'agneau. Tout a été combiné pour que votre fric passe dans nos poches. C'est ça la vérité sur Las Vegas.
Bonjour Pascale Nedelec.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On va être rejointe dans un instant par Marie Redon. C'est ça la vérité sur Las Vegas, nous dit Ace Rothstein, le patron mafieux de l'un des casinos les plus prospères de la ville, joué par Robert De Niro, bien sûr, dans le film de Scorsese de 1997. Casino qui se déroule dans les années 70. Et oui, ce sont bel et bien les mafias qui ont développé les casinos à Las Vegas, Pascale Nedelec.
Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on parle de Las Vegas, on l'associe beaucoup à l'image sulfureuse de la mafia. La mafia et les mafieux ont joué un rôle incontestable, mais dans une situation un petit peu originale, puisque lorsqu'ils opéraient des hôtels casinos dans Las Vegas et dans l'État du Nevada, ils le faisaient de façon légale. Mais bien sûr, les investissements qu'ils menaient dans le cadre de cette activité reconnue légalement par l'État du Nevada étaient alimentés par des activités criminelles qui avaient lieu dans le reste des États-Unis, là où le jeu et les casinos étaient interdits. Donc on a cette situation un petit peu paradoxale d'une vitrine totalement légale avec une certaine imposition et une régulation par l'État d'activités mafieuses et un blanchiment d'argent incontestable qui a lieu jusqu'aux années 70 et qui après disparaît pour différentes raisons.
Et le personnage d'Ace Rothstein dans le film Scorsese est inspiré par un personnage bien réel, un patron de casino, Frank Rosenthal. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? C'est une figure assez emblématique de ces années 70, Pascale Nedelec.
Alors, on a en effet des figures issues du monde de la mafia qui ont marqué les esprits et les imaginaires. Frank Rosenthal, on peut parler de Thomas Hull, qui est un des premiers à avoir développé les casinos dans ce qui va devenir le strip dans les années 40. Et donc, on a différents mafieux qui investissent à Las Vegas dans des établissements, alors souvent adossés à des personnalités locales. salle, parce qu'il fallait quand même aussi une structure et puis une capacité de gestion au quotidien. Mais il faut bien voir que derrière ces individus, ces grandes personnalités très flamboyantes, il y a toute une somme d'acteurs privés qui régulent et organisent au quotidien. Donc là encore, c'est un petit peu la pointe de l'iceberg qui ne devrait pas faire oublier le reste de ce secteur économique.
Bonjour Marie Redon. Marie Redon, est-ce que vous m'entendez ? Alors, la connexion avec Marie Redon a été coupée. On va la retrouver dans un instant. Vous l'avez dit, hein, le casino s'est développé dans le Nevada dès les années 30 parce que c'était alors le seul État américain à autoriser les jeux d'argent. Vous l'avez dit, ça va être le cas pendant près de 80 ans. Et à ce moment-là...
50 ans,
pardon. Et à ce moment-là, c'était l'un des seuls moyens de développer l'économie locale au Nevada, Pascal Nedelec.
Alors, s'il faut replacer le Nevada à l'échelle des États-Unis, on est dans un État de l'Ouest, un État qui est majoritairement désertique, notamment dans sa partie sud, et qui a assez peu d'activité économique. Il y a de l'élevage extensif, assez peu rentable. Et donc, les autorités locales ont très vite été confrontées à une difficulté de développement. Et les jeux d'argent, qui étaient dans la continuité de la colonisation et de la présence de cow-boys et de pionniers, un petit peu à l'image d'un Lucky Luke, se sont vite imposés comme la solution. Et donc, on a une activité de jeu d'argent qui a été légalisée très tôt, dès les années 1860. Après, il y a une petite interruption, mais dans les faits, qui n'a pas vraiment été respectée. Et à partir de 1931, en effet, légalement, toutes les formes de jeux d'argent ont été autorisées, ce qui était un cas unique aux États-Unis et ce qui a en grande partie assuré l'essor économique de cet État, par ailleurs, qui serait resté très pauvre sans cette option de développement.
Alors que, je le disais en introduction, à l'origine, le casino est européen, il est à destination des classes les plus aisées, et donc ce loisir des aristocrates va devenir peu à peu, notamment aux États-Unis, un objet de consommation populaire, Pascal Nedelec ?
Oui, on est vraiment sur des profils sociologiques très différents. Je l'ai dit, dans l'Ouest états-unien, le jeu, c'est la pratique des cow-boys, des pionniers qui espèrent faire fortune dans les mines et qui, quand ils s'ennuient le soir, jouent au dé ou parient sur des combats divers et variés. Et le casino aux États-Unis a tout de suite eu cette vocation populaire d'appel à toutes les catégories sociales, avec des mises aussi financières accessibles, même aux ouvriers ou aux gens qui avaient des petits moyens, contrairement à cette dimension très élitiste, très aristocratique qu'on va trouver dans le casino en Europe. Et ça va se retrouver aussi beaucoup dans la conception même de l'établissement, de l'architecture. Après, il ne faut pas non plus nier la présence de stars et de célébrités, donc un peu un côté paillettes et glamour, pour aussi faire rêver les classes populaires et leur donner encore plus envie de rentrer dans ces établissements.
Et oui, et comment cette différence entre casino européen et casino américain se traduit-elle dans la décoration de ces lieux, Pascal Nedelec, et cela dès les années 30 ?
Oui, alors si on pense aux casinos peut-être les plus connus en Europe, on peut penser au casino de Monte-Carlo à Monaco, on peut penser au casino de Deauville, on peut penser au casino de Spa en Belgique, donc des établissements très luxueux, avec une décoration très ostentatoire, souvent art déco, très recherchés. Alors que dans les établissements qu'on va trouver à Las Vegas, on a des établissements beaucoup plus fonctionnels, beaucoup moins recherchés en termes d'ostentation, mais plutôt travaillés autour de thématiques, d'ensemble à thème. Pour des personnes qui ne verraient pas à quoi ça ressemble, on peut penser un peu à un parc d'attractions. Souvent, la comparaison est faite. Vous avez un thème principal et vous allez avoir l'ensemble des espaces du casino qui déclinent ce thème. Alors, au début, c'était plutôt un thème de l'Ouest, les cow-boys, les Far West, le Far West, les chevaux, le ranch. Et puis, progressivement, ça s'est diversifié. Et aujourd'hui, on va avoir un faux château médiéval, une réplique de Venise ou encore un ensemble d'îles tropicale perdue au milieu du désert.
Venise, justement, est-ce que ce n'est pas la ville d'origine des casinos ? Marie Redon, nous avons rétabli la connexion avec vous. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Nous avons commencé à parler avec Pascal Nedelec des origines des casinos. On s'est intéressé en particulier à Las Vegas, puisque ce modèle s'exporte aux États-Unis dans les années 30 en particulier. Mais qu'est-ce qu'on peut dire des origines plus anciennes, européennes, des casinos ?
Alors effectivement, le terme même de casino, hein, c'est un terme italien, d'origine italienne, qui signifie une petite maison et qui désignait un lieu fermé, un lieu situé à l'écart du cœur de la ville, où l'on pouvait s'adonner aux jeux de cartes. Et on aurait comme première ouverture attestée de ce type d'établissement, un casino à Venise en 1638. Ensuite, à partir de ces débuts, de ces petites maisons de jeu, le développement en Europe, hein, c'est surtout fait donc toujours en Italie, mais aussi en Allemagne et en France, est toujours en lien avec le tourisme des villes d'eau. Et là, on va avoir 17e, 18e et surtout, bien sûr, évidemment, au 19e et au 20e siècle, un développement assez spectaculaire de ces établissements et de ces casinos.
Et pourquoi, justement, sont-ils implantés dans les villes d'eau en Europe, Marie Redon ?
Alors, pour le cas de la France, on a un lien qui est extrêmement net, extrêmement clair, entre la localisation soit dans les villes d'eau, soit balnéaire et l'établissement de casinos. Et alors, ça n'est pas simplement un déterminisme géographique.
Ah, nous sommes en train de perdre à nouveau la liaison. On va voir si on va réussir à rétablir une liaison plus stable. Mais c'est intéressant de voir ce lien entre tourisme et casino qui se fait en France dès le départ. Est-ce que ça va venir un peu plus tard aux États-Unis, Pascal Nedelec ?
Dans le cas de Las Vegas, on a très clairement une articulation entre les deux. Les premiers casinos ne sont pas pour la population. Les premiers casinos de Las Vegas ne sont pas pour la population locale, puisqu'on a un embryon de ville. C'est vraiment un tout petit bourg perdu au milieu du désert. Et la fréquentation des casinos va être alimentée initialement par les premiers flux touristiques à destination du barrage Hoover. Donc ce grand barrage symbole de l'ingénierie américaine qui est construit dans les années 30 sur le fleuve Colorado et qui est à quelques kilomètres de Las Vegas. Et donc on va très clairement avoir un développement qui repose sur la visite de personnes extérieures à la ville. Encore aujourd'hui, l'essentiel de la fréquentation des casinos sont des touristes, mais des touristes états-uniens. Alors le chiffre a un peu varié avec les différentes crises, la crise économique 2007-2008, puis la crise du Covid, évidemment. Mais aujourd'hui, on a un peu moins de 10% de visiteurs étrangers. Et tout le reste, c'est des visiteurs, des touristes américains.
On a commencé cette émission en parlant de l'importance de la mafia dans le développement de ces casinos à Las Vegas. Pourquoi cette présence mafieuse recule-t-elle dans la ville dans les années 80, Pascal Nedelec ?
Alors là encore, c'est vraiment une décision politique très très nette, puisqu'en 1967, une loi est votée à l'échelle du Nevada. Alors faut le rappeler, les États-Unis sont un pays fédéral, donc beaucoup de législation relève de l'échelon des États. C'est la Corporate Gaming Act, et c'est une loi qui va modifier le processus administratif nécessaire pour ouvrir un établissement. À partir de cette loi, des autorités morales, donc des entreprises cotées en bourse, peuvent être possesseurs d'une entreprise de casino et non plus une personne physique. Et à partir de là, ça va laisser un appel d'air pour des entreprises plus classiques qui vont se dire qu'il y a une manne économique à exploiter et qu'il faut investir dans ce secteur. Et les mafieux étaient dépassés par les moyens financiers de grandes entreprises, notamment de l'hôtellerie ou du loisir qui existait dans le reste des États-Unis. Et puis parallèlement, on a quand même une banalisation de la pratique des jeux d'argent, une démocratisation, une activité qui est de moins en moins condamnée pour des motifs moraux et religieux, ce qui était le cas avant. Et donc, ça devient de plus en plus acceptable socialement qu'une grande entreprise investisse à Las Vegas ou qu'un acteur économique classique monte une entreprise autour de la possession d'hôtels casinos.
Et donc, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, celle des hôtels gigantesques, avec une course au gigantisme des établissements dans le contexte d'une concurrence accrue, Pascal Nedelec ?
Oui, on a vraiment un renouvellement très très profond dans ces années 70, début des années 80, avec beaucoup plus de moyens financiers, avec des logiques commerciales beaucoup plus élaborées, de grands groupes qui peuvent investir. Et puis, il y a aussi l'apparition génération d'hommes individuels visionnaires qui ont largement fait la réputation de Las Vegas. On pense à Sheldon Adelson, qui est le propriétaire initial du groupe Sands. On pense à Kirk Kerkorian, qui est le propriétaire initial du groupe MGM, ou Steve Wynn, qui est encore aujourd'hui l'homme majeur du groupe Wynn. Et donc, ces différents entrepreneurs et ces grands groupes ont investi largement et on a basculé dans ce qu'on appelle l'ère des méga resorts, donc ce qu'on pourrait appeler des complexes touristiques, où c'est plus uniquement un hôtel, un casino, mais c'est aussi un hôtel, un casino et une offre intégrée de divertissement avec des piscines, avec des salles de spectacle, avec toute une offre de loisirs pour les visiteurs. Et donc, on change complètement d'échelle avec un effet de concurrence interne entre ces hôtels casinos de plus en plus accru.
À tel point que Las Vegas accueille aujourd'hui, je crois, 70% des 30 plus grands hôtels du monde, c'est cela, Pascal Mizelec ?
Oui, alors il y a constamment cette course un peu à l'échalote pour avoir le plus grand hôtel casino ou même le plus grand hôtel du monde. Souvent, il y a une concurrence située en Asie, mais Las Vegas et notamment le Venetian, dont on a parlé, hein, qui est une réplique de Venise, est dans le top 3 encore aujourd'hui par le plus grand nombre de chambres.
France Culture.
Carte. 8 à la banque.
Suivi.
C'est suivi.
Le casino couvre la différence.
Oui, madame. Oui, monsieur. Changeur, s'il vous plaît.
Carte.
Entendez-vous l'écho.
9 à la banque.
Et encore 4. Une plaque de 1000.
J'admire votre courage, mademoiselle...
Trench. Sylvia Trench. Et j'admire votre chance, monsieur...
Bond. James Bond.
Tiffaine de Roquigny.
Nous continuons à parler de l'économie des casinos avec les géographes Pascal Nédélec et Marie Redon. Alors les casinos de Las Vegas rapportent gros et cela donne des idées à d'autres États américains qui vont commencer à se lancer dans ce business, Pascal Nédélec.
Alors en effet, donc Las Vegas et le Nevada ont eu le monopole des jeux d'argent pendant presque 50 ans. Mais après, d'autres États se sont dit que c'était une opportunité de développement économique intéressante. Le premier à avoir franchi le pas, c'est l'État du New Jersey. En 1978. Et ensuite, progressivement, on a eu une légalisation, alors soit de certains types de jeux d'argent, soit de tous les jeux d'argent. Il y a toutes les configurations possibles dans pratiquement tous les États des États-Unis. Aujourd'hui, il y a encore deux États qui font de la résistance. C'est l'Utah, pour des raisons religieuses, puisque c'est le foyer de la religion mormone. Et Hawaï, pour des raisons un peu mélangées, mais notamment de crainte des dérives liées aux jeux d'argent. Et donc, aujourd'hui, c'est clairement un secteur d'activité très important aux États-Unis. On considère que à peu près un Américain sur trois s'est rendu dans un casino dans l'année 2022 et on peut imaginer les revenus que ça représente. Hein. Ça fait à peu près 100 milliards de dollars pour l'année 2022 à l'échelle de tous les États-Unis.
Et il y a eu cette volonté aussi dans les territoires indiens aux États-Unis de développer des casinos avec cet objectif d'un développement économique de ces territoires assez pauvres et reculés, de la même façon qu'il y a eu cet objectif, on l'a dit, hein, pour Las Vegas au Nevada dans les années 30.
Oui, c'est vraiment cette idée du casino comme levier de développement local pour des territoires qui sont relativement dépourvus de richesses naturelles et qui n'ont pas besoin de grand-chose à part une accessibilité routière. Ça, c'est une loi qui a été votée en 1988, donc la Indian Gaming Regulatory Act, qui autorise la construction d'hôtels casinos dans les réserves amérindiennes, même si le reste de l'État n'autorisait pas les jeux d'argent. Et donc, ça pouvait créer des législations spécifiques dans ces territoires à l'histoire particulière. Et encore aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle les casinos indiens, c'est un acteur majeur du secteur, puisque c'est à peu près 40% des revenus par rapport aux 60% des casinos légaux ou d'autres formes de jeux d'argent.
Restons un peu dans ces années 80, puisque c'est un moment important pour l'économie du casino. C'est une période, Marie Redon, où cette économie, justement, se mondialise et cela va ensuite s'accélérer pendant la décennie suivante.
Oui, il y a effectivement un net phénomène de mondialisation et d'internationalisation de l'économie casinotière qui correspond à une accélération de la croissance de ce secteur d'activité. Donc on peut faire un lien très net entre ce phénomène de mondialisation et le développement des casinos. Non seulement en nombre de casinos Et en ouverture de casino, on peut tout à fait identifier une accélération, on va dire des poussées de croissance de cette économie casinotière, alors que ce soit en France où la fin des années 80 a été marquée par une augmentation de plus de en valeur absolue de plus de 50 casinos, que ce soit au Cambodge, donc l'autre côté de la planète, si on peut dire, où on voit aussi fleurir les casinos à cette époque-là. On a vraiment, depuis les années 80-90, une augmentation très très nette, à la fois en nombre de casinos et aussi en flux financiers sur ce grand marché des jeux d'argent et des casinos.
Un grand marché dans lequel la Chine devient un acteur incontournable. Je vous propose d'aller du côté de Macao, situé à 60 km à l'ouest de Hong Kong, sur le delta de la rivière des Perles.
Pour faire sortir leur argent, beaucoup de gens utilisent Macao via les casinos. Personne, aucun homme d'affaires ne s'est jamais senti en sécurité sous le Parti communiste chinois. La question, c'était combien on garde d'argent en Chine, combien on en sort.
Les casinos de Macao, et en particulier les salons VIP, sont devenus des banques clandestines. Pour blanchir 10 millions de dollars, vous payez 3% de commission. L'argent va dans la caisse du casino. Officiellement, vous perdez 3% de cette somme. Et il ressort en chèque ou en cash. C'est du pur blanchiment.
Un extrait de l'excellent documentaire en trois volets d'Antoine Witkin, Triade, la mafia chinoise à la conquête du monde, disponible sur Arte. On vient d'entendre Desmond Choum, un mania chinois, puis Martin Purbrick, un ancien policier au service d'entreprise qui s'inquiète de l'influence des triades. Marie Redon, est-ce qu'on peut dire qu'il se passe à Macao ce qui se passait à Las Vegas il y a quelques décennies ?
Alors, oui, on peut dire que ça relève de la même logique, mais avec, en plus, par rapport à ce qui se passait à Las Vegas, une internationalisation qui est encore plus nette et une circulation d'un pays à l'autre qui prend de l'ampleur. Alors, Macao représente à peu près un tiers du chiffre d'affaires mondial des casinos. Donc, on est vraiment dans une... on peut dire un poids plus que lourd et un centre de gravité de cette économie casinotière, avec un blanchiment qui est avéré. Effectivement, le documentaire Triade explique très bien ce phénomène, et avec aussi des déplacements de la logique de blanchiment, c'est-à-dire quand il y a un contrôle un peu accru sur la zone de Macao, comme ça a pu être le cas dans les années au milieu des années 2010, eh bien l'activité casinotière a un recul significatif de l'ordre de 30 à 40%. Donc on voit bien le lien immédiat entre blanchiment d'argent et économie casinotière. Et les gros joueurs en provenance de Chine assurent presque 70% des revenus des casinos de Macao, sachant que souvent ces gros joueurs en fait sortent de l'argent de Chine, hein, du pays. Ils le sortent par Macao, puisque c'est un moyen qui n'est pas possible par ailleurs. La déclaration préalable aux autorités, c'est pour des sommes de l'ordre de 10 000 dollars pour la Chine, alors que là, la souplesse est beaucoup plus nette à Macao. Mmh. Donc on voit nettement que la Chine a aussi besoin pour, on va dire, absorber les excédents de cette économie, de cette croissance économique et de ces flux financiers, a besoin d'une porte de sortie qui n'est pas trop regardante, ce qui est le rôle de Macao. Mais après, je parlais de circulation, c'est-à-dire ces capitaux qui vont à Macao peuvent se retrouver à l'autre bout de la planète, ils peuvent se retrouver par exemple sur le continent africain avec des nouveaux pays ouverts aux jeux d'argent, un peu comme des fronts pionniers, si on peut dire. Et je pense à David Cho, hein, qui est dans la société Macao Legend Development, qui a ouvert un casino à Praia, au Cap Vert, hein, sur l'île de Santiago, très récemment.
On va en parler, hein, Marie Redon, parce qu'effectivement, c'est intéressant de voir comment cette économie du casino et comment ces grands groupes chinois vont ensuite investir dans d'autres pays, d'autres continents. Mais d'abord, peut-être sur la clé de la réussite de Macao. C'est une ville qui s'est tout simplement inspirée de la recette de Las Vegas, Pascal Nedelec.
Oui, il y a beaucoup d'éléments complémentaires. Et d'ailleurs, souvent, on va qualifier Macao de Las Vegas asiatique. Même si d'un point de vue historique, le pratique des jeux d'argent à Macao est même antérieure à celle de Las Vegas et du Nevada, puisqu'elle est liée à la présence du comptoir portugais et aussi inscrite dans une histoire de la colonisation. On va avoir une inspiration, notamment à partir de la fin des années 90-2000, parce que des grands groupes de Las Vegas vont investir à Macao, et ça pour des raisons là aussi juridiques. Il faut peut-être rappeler, parce qu'il y a ce même différentiel législatif, que Macao, de par son statut de comptoir portugais, est encore aujourd'hui un territoire avec un statut autonome, donc une législation spécifique sur certains aspects.
Pour rappeler peut-être que Macao est entré dans le giron de la Chine seulement en 1999.
Hein, c'est ça, et dans le cours de négociation, il y a eu l'autorisation de maintenir, par exemple, la pratique des jeux d'argent dans les casinos, alors que cette pratique et les casinos sont totalement interdits en Chine, qu'on appelle continentale. Donc il y a aussi cet effet de polarisation des joueurs chinois qui sont culturellement, généralement, assez friands de ces jeux d'argent. Et donc en 2002, il y a eu une modification de la loi qui a autorisé des investisseurs étrangers. Et les grands groupes américains, notamment les grands groupes végasiens, se sont dit qu'il fallait absolument investir. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont essayé de dupliquer le modèle Las Vegas à Macao. En deux mots, le modèle Las Vegas, c'est non seulement une salle de jeu, mais au-dessus de ce rez-de-chaussée dédié aux jeux d'argent, un hôtel avec des capacités hôtelières assez importantes. Et autour de ces deux activités cœur de cible, toute une gamme de divertissements. Des divertissements qui peuvent aller jusqu'à la thématisation de l'architecture, avec cette idée qu'on vient voir l'architecture hors norme.
Avec des hôtels qui sont parfois les reproductions exactes de leur équivalent à Las Vegas.
Avec, et c'est toujours quelque chose qui étonne beaucoup les gens qui connaissent peu, à Las Vegas, il y a une fausse lagune avec des faux gondoliers, mais des vraies gondoles qui circulent dans le casino et puis dans le centre commercial qui lui est attaché. Et donc, dans le début des années 2000, on a eu la reproduction de ce modèle Las Vegas avec cette offre intégrée de divertissement, une offre qui était peut-être un petit peu différente de ce qu'il y avait avant, avec des groupes qui étaient, à ma connaissance, plutôt asiatiques.
En revanche, la clientèle est un petit peu différente.
Mais l'état d'esprit n'est pas le même. Et souvent, les gens qui ont fréquenté les deux destinations vont dire oui, certains hôtels sont les mêmes. Il y a un Venetian Macao, il y a un Sands Macao, il y a un Wynn Macao. Donc, c'est vraiment la copie. Mais l'état d'esprit n'est pas exactement le même, puisqu'à Las Vegas, le jeu est un produit d'appel, mais n'est plus le cœur de la rentabilité économique. Les touristes qui viennent essentiellement dépenser leur argent sur d'autres postes de dépenses. Plus de 50% des dépenses et des recettes, par conséquent, des hôtels casinos aujourd'hui, c'est la nourriture, c'est la boisson, c'est le spectacle, c'est le shopping. Il y a beaucoup de centres commerciaux. Alors qu'à Macao, le jeu reste la première activité. C'est pour ça qu'on vient, pour des raisons légales ou plus ou moins interlopes. Et donc, on pourrait dire que le jeu est pris au sérieux à Macao et qu'il est un petit peu moins à Las Vegas. Ceci étant dit, il y a encore dans les casinos de Las Vegas des salons de jeu VIP, VIP pour des très gros joueurs qu'on appelle les baleines dans le jargon des casinos, qui prennent le jeu très au sérieux avec des mises qui peuvent monter jusqu'à 10 000, 20 000, 50 000 dollars la main. Mais ça, le commun des mortels ne peut pas y avoir accès. Donc c'est dans cet aspect-là qu'on retrouve des points communs encore quand même entre Macao et Vegas.
Et aujourd'hui, dans cette économie mondialisée des jeux d'argent, la plus forte croissance se trouve en Asie, à tel point que ça attire des géants du casino comme l'American Sands, qu'on a déjà évoqué, Marie Redon.
Oui, alors l'American Sands, ben justement, pour faire suite à ce que disait Pascal Nedelec, cet aspect ville un peu ludique, c'est-à-dire au-delà des jeux d'argent, des moyens d'offrir du loisir un peu tous azimuts, C'est aussi ce qui caractérise Singapour, où on voit que là, on a une des villes-états les plus riches du monde et que l'ouverture très spectaculaire du casino de Singapour par le groupe Sands, hein, qui est précisément déjà présent à Las Vegas et à Macao, en 2010, c'est certes juste à côté du quartier des affaires. Donc on a un lien entre l'implantation de ce casino et la volonté d'un affichage dans le quartier marqué par cette architecture très spécifique, tout au bon, etc. Et il y a de la part de l'État singapourien là une stratégie pour renforcer son attractivité auprès des cadres internationaux et notamment chinois, avec ces entreprises qui sont déjà attirées par la localisation de Singapour au cœur de l'Asie, et le casino vient encore augmenter une forme de soft power, on pourrait dire, des activités ludiques et au-delà touristiques. Donc tout à fait d'accord, hein, avec cette idée d'une circulation et une mutation un peu de la ville, on va dire, de jeu à la ville ludique au sens un peu plus large du terme. Casino, moi ma vie n'est qu'un casino. Une roulette où mon cœur joue si gros que tous les hommes s'arrêtent, répètent. Casino, sa vie n'est qu'un casino.
Casino, une chanson de Betty Mars de 1972. Vous écoutez France Culture et vous avez raison, et vous écoutez Entendez-vous l'écho. Casino, la roulette russe, c'est notre sujet. Aujourd'hui, les géographes Marie Redon et Pascal Nédélec sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch avec l'aide d'Inès Barja et mise en onde par Félix Delacour. Alors l'industrie du casino est très rentable et c'est une rentabilité, Marie Redon, qui repose largement sur les bandits manchots, comme on appelle les machines à sous.
Alors oui, avec des spécificités selon les lieux, on joue plus ou moins aux bandits manchots. On évoquait tout à l'heure la différence entre le versant états-unien et le versant plutôt asiatique du jeu. Eh bien, du côté de Macao, par exemple, on préfère les tables de jeu. On préfère être en face à face avec des interlocuteurs plutôt que de jouer aux bandits manchots, enfin ce qu'on appelle les bandits manchots, et qui occupent le plus grand nombre des joueurs et qui rapportent le plus du côté des États-Unis. Donc on a des spécificités, hein, selon les lieux, mais effectivement ces fameux bandits manchots, ces machines à sous, sont celles qui attirent le plus dans les casinos, sans doute aussi parce que bon, elles sont plutôt simples d'utilisation, mais également parce qu'on a un retour aux joueurs un taux de retour, de redistribution et de reversement aux joueurs qui est plus important pour les machines à sous que pour d'autres formes de jeux. Et c'est important, évidemment, quand on choisit un jeu. Il est, par exemple, pour la France, de l'ordre de 85% pour les machines à sous contre... vous m'entendez ?
On vous entend parfaitement.
Pardon, excusez-moi, je suis désolée. Voilà, pour la roulette, les ordres sont beaucoup moins importants. Donc voilà, c'est ce critère de retour aux joueurs qui fait l'attractivité de ces bandits manchots.
Oui, il faut faire de savants calculs pour que le retour de gain aux joueurs soit suffisamment élevé afin que celui-ci continue à jouer, mais que ça reste rentable, évidemment, Pascal Nedelec.
Alors, continue à jouer, pour l'anecdote, on peut avoir l'image du bandit manchot où il y a un bras de levier qu'on active pour faire tourner les roues et à savoir si on a gagné ou pas. Ce bras de levier a globalement été supprimé. Et la raison, notamment à Las Vegas, c'est parce que ça engendrait des tennis elbows aux joueurs. Parce qu'on a des gens qui passent beaucoup de temps et donc le même geste fréquent faisait des douleurs musculaires au niveau du coude. Et donc maintenant, ce n'est plus un bras de levier où ils sont laissés uniquement pour la décoration et le folklore. Et on a des boutons. C'est juste, il faut appuyer sur le bouton. Il n'y a plus qu'un seul doigt qui appuie.
Donc là, on arrive dans la salle des machines à sous. Le lieu magique du casino, 330 machines à sous dans un espace assez réduit, mais convivial. L'arrivée des machines à sous a complètement démocratisé le monde des casinos. Maintenant, on voit monsieur tout le monde, pas besoin d'avoir un titre ou une fonction supérieure pour venir jouer dans les machines à sous. Et vous avez pu voir notre clientèle, qui est la clientèle type, le Lorrain type qui vient jouer ici avec 20 euros, avec 30 euros et qui viennent tous les jours. Voilà, là c'est le coin où il y a toujours de plus en plus de monde, les machines à 1 centime, les machines à 2 centimes. Donc ici, le secteur est toujours très pris. Dès 10h du matin, les clients courent et essayent d'avoir les machines libres. Les clients s'amusent. Avec un billet de 20 euros, vous allez jouer par 50, 60, 100 crédits. Donc il y a cette sensation de jouer beaucoup qui plaît aux clients.
Voilà le directeur du casino d'Amnéville en Moselle dans le documentaire de Stéphane Rodriguez de 2008, Casino, la nouvelle donne. Alors vous l'avez dit, Marie Redon, il y a évidemment des différences selon les casinos. Les machines à sous sont plus ou moins importantes, ont plus ou moins un rôle central. Mais en tout cas, dans les casinos français, ces machines, ces bandits manchots représentent la majorité des recettes.
Alors oui, ça représente la majorité des recettes, effectivement. Et l'autorisation ou la mise en activité de ces machines à sous date de la fin des années 80, hein, avec l'amendement Chaban en 1988. Et on a vu à ce moment-là une explosion, hein, du nombre de casinos, en tout cas une accélération de leur ouverture, notamment pour contrebalancer le repli un peu des casinos en France de l'après-Seconde Guerre mondiale, où on avait pu constater un ralentissement de l'activité casinotière. Et puis, on va dire coup de génie, coup de poker, ou en tout cas volonté de relancer nettement cette activité à partir de la fin des années 80. Autorisation de ces machines à sous de façon très large, hein, en 88. Et là, pour donner quelques chiffres, hein, le nombre d'établissements a du coup augmenté de presque 45%. Hein, entre 85 et 2006, on est passé de 135 à 196 casinos en France. Donc on voit bien le lien entre ces machines à sous et le développement des casinos sur lequel reposent beaucoup, évidemment, les recettes des casinos.
Et dans ces casinos, il y a une clientèle locale et une clientèle touristique qui vient d'ailleurs. On le voit, ça, à Las Vegas, Pascal Nedelec. Les touristes et les fidèles ne vont pas dans les mêmes casinos.
Oui, alors il faut rappeler un tout petit peu la géographie de ces casinos. En fait, à Las Vegas, vous avez deux quartiers touristiques. Un quartier dans le centre historique, donc la ville la plus ancienne de la région, qu'on appelle Downtown, où vous avez les casinos les plus anciens, avec les superficies les plus réduites, parce qu'on était plus contraints en termes d'extension, et puis avec l'offre touristique, du coup, un petit peu plus réduite. Là, vous allez avoir un peu plus de personnes de la ville et de la région, gagnants parce que les mises sont aussi plus faibles. Et comme c'était indiqué dans le documentaire, hein, c'est très important de pouvoir jouer avec 10 centimes, 20 centimes, 1 centime, 1 dollar et passer du temps avec cet argent sur les machines. Alors qu'il y a un deuxième quartier qui est le quartier touristique le plus connu, qu'on appelle le Strip, qui là attire beaucoup plus les touristes. On va avoir une offre plus élaborée, plus diversifiée à ces deux quartiers, pardon.
Je vous en prie, prenez le temps de tous. Effectivement, il y a deux quartiers et c'est intéressant de faire la différence, que ça nous en dit beaucoup sur cette économie de Las Vegas qui a vraiment investi des cibles, des clientèles différentes, Pascal Nedelec.
Oui, on a vraiment la spécialisation de ces deux quartiers qui fonctionnent un peu comme des îlots. Je parle d'enclaves fonctionnelles, comme des petites îles dans le reste de la ville. Mais ces quartiers, parce qu'ils sont plus chers, parce qu'ils sont plus difficiles d'accès, ne sont pas forcément ceux dans lesquels viennent jouer les populations locales. Et donc vous avez aussi ce qu'on appelle les casinos de quartier, qui sont sur le même principe, une offre intégrée, salle de jeu, hébergement touristique et activités de loisirs diverses, mais ici dans les quartiers résidentiels, donc de façon totalement excentrée, que les touristes ne voient jamais. Et l'adaptation des jeux reflète cette fréquentation différente, puisqu'on va avoir tout ce qui est nouveauté qui est testé dans ces établissements, parce qu'il faut renouveler plus souvent l'offre pour des gens qui viennent potentiellement tous les jours. On va avoir des mises plus faibles et on va avoir un petit peu plus de machines à sous qui sont en effet beaucoup plus démocratiques, beaucoup plus faciles d'accès. Même si aujourd'hui, avec le développement du poker vidéo, de la roulette ou des jeux de cartes adaptés sur machines vidéo, on va avoir ce qu'on appelle les jeux de cartes qui se démocratisent aussi un petit peu. Donc trois types de casinos différents, deux quartiers différents. Et de quoi répondre aux besoins de chaque frange des consommateurs potentiels.
Et tout cela entraîne des retombées économiques différentes selon les quartiers. Il faut rappeler que c'est une ville, Las Vegas, qui attire, je crois, entre 35 et 40 millions de touristes par an. Tout cela a un impact considérable, j'imagine, sur l'économie locale.
Oui, alors incontestablement, hein, d'abord le jeu, puis autour tout ce qui est lié aux activités de tourisme et de loisirs, de divertissement. Au sens large, c'est le premier pôle d'activité de l'aire urbaine. Ça va engendrer 14 milliards de dollars en 2022. On est un chiffre qui est en diminution par rapport au record du milieu des années 2010. Et cette diminution, elle s'explique par la crise Covid, qui a évidemment diminué la possibilité de dépenses.
Oui, et ça, c'est ce qu'on observe aussi du côté de Macao, Marie Redon. L'industrie du casino a permis le développement économique de la ville et de ses alentours?
Oui, évidemment, il y a un effet d'entraînement et d'appui sur l'économie casinotière qui est à mettre en relation, comme on le disait tout à l'heure, avec cette logique d'internationalisation, de mondialisation et aussi de concentration des acteurs. On en a parlé pour Las Vegas, de ces gros acteurs, également pour Macao. Et la logique de concentration, on va aussi la trouver en France, où on a quand même une géographie casinotière qui est très, très spécifique. Je voudrais simplement signaler que la France est le deuxième pays au monde en nombre de casinos, juste derrière les États-Unis, vient la France, et que cet essaimage des casinos sur le territoire français a pour corollaire des pratiques et des clientèles de casinos qui sont très différentes. Pour faire le lien avec ce que disait Pascal Nedelec, on a, selon les types de casinos, des types de fréquentation distinctes, et autant on peut avoir du petit casino rural qui va s'appuyer sur une clientèle plutôt locale qui trouve un moyen de se divertir à proximité de chez elle, une forme de sociabilité aussi, et puis une offre de loisirs qui dépasse le casino. Ça revient depuis le début de l'émission, le mélange entre le jeu mais aussi d'autres offres de divertissement. Par exemple, le petit casino de Castera Verduzan dans le Gers offre à la fois une soirée avec Nice Midi-Pyrénées, mais en même temps, le jour d'après, un vernissage d'une exposition de peinture ou encore une pièce de théâtre. Donc on voit comment ces petits casinos reposent sur une clientèle plutôt locale. Et à côté de ça, vous avez par exemple le casino d'Anguin, qui est le plus important en France en termes de fréquentation et de chiffre d'affaires, qui se situe dans les environs de Paris, et où là, on peut avoir à la fois une clientèle du de France, mais aussi une clientèle de touristes qui vient fréquenter ce casino aussi.
Et ces casinos français, il y en a 203 en tout, ont su se réinventer après la crise Covid qui les a sérieusement éprouvés, Marie Redon ?
Alors oui, on a eu une grosse baisse de l'activité, évidemment, pendant la crise Covid. Et la question, c'était, est-ce que les casinos vont se relever de ce coup d'arrêt ? La réponse est oui, puisque là, les taux de croissance pour 2022-2023 sont à nouveau très spectaculaires. On a eu, par rapport aux années précédentes, hein, une croissance de l'ordre de 130%. Donc c'est que vraiment, les gens retournent dans les casinos, comme s'ils avaient été en manque de cette pratique pendant le Covid. Donc retour dans les casinos, une hausse moyenne de 20% sur un an. Et là, on est sur des chiffres d'affaires hein, de l'ordre de 13 milliards d'euros en tout pour les jeux d'argent et portés beaucoup par les casinos, malgré les parts de marché gagnées par les paris en ligne, hein, les paris sportifs dont vous parliez hier sur votre antenne, mais les casinos résistent. Ces casinos résistent et une adaptation aussi du modèle. Qui dit adaptation dit concentration et grandes entreprises, parce que à la différence de la loterie, des jeux de grattage ou du pari hippique qui en France sont confiés à des sociétés en situation de monopole, hein, le PMU, FDJ, le secteur des casinos est plus concurrentiel avec quelques gros acteurs dont on connaît généralement les noms comme le groupe Barrière, le groupe Partouche. Et en réalité, il y a quatre groupes principaux qui se partagent, on va dire, les trois quarts des casinos. Et après, vous avez un semi de petits casinotiers, mais ces petits casinotiers ont du mal, eux, à s'adapter à ce nouveau modèle qu'on évoque depuis tout à l'heure aussi, avec des investissements de plus en plus importants, avec des mises de fonds pour proposer des décors, des machines toujours renouvelées. Et cette adaptation donc nécessite forcément une force de frappe, si on peut dire, plus importante.
Oui, et puis ce que l'on peut dire aussi, Marie Redon, sur l'impact de ces casinos français sur l'économie locale, c'est que là aussi c'est une spécificité de la France. La fiscalité sur ces casinos permet d'alimenter les collectivités territoriales, de leur apporter des financements, puisque c'est une fiscalité assez conséquente.
Oui, alors contrairement aux États-Unis dont on parlait tout à l'heure, où l'activité casinotière se développe avec une logique plutôt de privatisation des profits, si on peut dire, l'État français essaie de garantir une forme de partage social, on va dire, plus socialement équitable des bénéfices des casinos, avec à la fois une fiscalité qui revient directement à l'État, qui est quand même le premier bénéficiaire de l'économie casinotière, et ensuite aux collectivités locales. Alors par exemple, je parlais tout à l'heure d'Enghien-les-Bains. À Enghien, c'est à peu près 50% du budget de fonctionnement de la commune qui s'appuie sur la présence du casino. Mais dans d'autres communes, comme par exemple Barbazan, petite commune de Haute-Garonne, eh bien l'apport du casino est de l'ordre de 80% du budget de la commune. Donc, on voit que ça peut être localement des acteurs plus que déterminant, non seulement économiquement, directement pour le budget communal, mais aussi en termes d'emploi. Généralement, les casinos en France comptent entre 20 et 50 salariés, hein, pour la moitié des établissements, souvent plutôt à plein temps. Donc ça peut être une ressource d'emploi qui est précieuse pour des petites communes. Parfois, le casino est la première entreprise. Et puis, au-delà de ce rôle économique, il y a aussi l'animation de la vie culturelle dont je parlais tout à l'heure, avec un lieu de sociabilité, mais c'est aussi le financement de certains événements, comme par exemple le Festival de Cannes, les Francofolies de La Rochelle, autant d'événements qui sont bien connus et pour lesquels les casinos ont un rôle, ont mission un peu d'investir. C'est vrai pour les petites communes, mais pour les grosses communes, parce qu'on parlait tout à l'heure des années 80, de la fin des années 80 avec l'amendement Chaban, il y a aussi à ce moment-là une autre nouveauté très importante pour la France, c'est la possibilité d'ouvrir des casinos, non pas seulement dans les stations balnéaires et dans les stations thermales, mais aussi dans les villes de plus de 500 000 habitants.
Oui, alors ça c'est important, voilà. Parce que ça va nous permettre aussi de voir que l'ouverture de casinos dans de nouveaux lieux va permettre des opportunités économiques à d'autres villes, d'autres pays, on va en parler.
France Culture.
Alors ici, vous êtes dans ce que les Las Vegans appellent le bas de la ville, downtown. C'est le quartier populaire, c'est-à-dire que c'était ici, c'était la première rue de Las Vegas. Et ici, ce carrefour, c'est le carrefour le plus lumineux.
Entendez-vous l'écho?
Ici, c'est le paradis du joueur, le paradis ou l'enfer.
Tiphaine de Roquigny.
Et oui, nous quittons la France pour évoquer cette industrie mondiale du casino qui se transforme aujourd'hui avec un marché africain qui désormais est investi par les casinotiers, en particulier par les casinotiers hongkongais, Marie Redon.
Alors, les casinotiers hongkongais, c'est pas, là, c'est pareil, l'Afrique est très vaste et donc il faut bien distinguer les différentes parties du continent.
C'est beaucoup l'Afrique de l'Ouest hein, aujourd'hui qui est concernée, en particulier le Sénégal, alors, je crois.
Alors, disons, l'Afrique du Sud, pour commencer par les gros pays avec, on va dire, beaucoup d'investissements. En Afrique du Sud, on a une offre de casino qui est importante et avec un lieu un peu, on va dire, je ne sais pas comment le qualifier, tellement il est présenté comme un lieu de divertissement extrême. Hein, c'est Sun City, avec un aéroport propre, avec un golf, également comme à Las Vegas, on peut assister à des concerts, etc. etc. Et ce casino très spectaculaire, donc, qui a ouvert en 2008. Au-delà de l'Afrique du Sud, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, il y a un acteur principal qui est le groupe PEFACO, qui est un groupe qui est basé à Barcelone et qui a des casinos dans 8 pays, hein, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burundi, le Niger, donc plus de 300 salles de casinos dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. Mais la logique d'expansion de l'économie casinotière en Afrique est à superposer avec le développement global de la croissance économique, mais aussi de l'urbanisation. Il faut faire le lien entre bascule vers un monde plus urbain où le poids de la communauté, du regard, de la condamnation des jeux d'argent, on le disait tout à l'heure, hein, la banalisation, la démocratisation d'un côté et la banalisation de l'autre, fait que c'est de plus en plus acceptable. Donc oui, en tout cas, développement de ces casinos en Afrique, où c'est aussi les paris sportifs qui se développent énormément et avec des acteurs qui sont, on va dire, originaires de plusieurs parties du monde, ce qui montre bien l'importance de l'internationalisation dans cette industrie des casinos.
Et certains États ont recours à des stratégies de contournement des interdits religieux pour pouvoir implanter des casinos. C'est notamment le cas de la Turquie, dans le nord de l'île de Chypre, qui a une tradition casinotière assez ancienne, mais où aujourd'hui cette industrie continue à se développer, Marie Redon.
Oui, effectivement. Alors, la partie nord de Chypre fait partie, on va dire, des hauts lieux cachés. Autant Las Vegas ou Macao sont des hauts lieux très visibles de l'industrie casinotière, autant Chypre Nord, surtout vu depuis la France, hein, c'est beaucoup plus connu en Grande-Bretagne, par exemple, mais en France, on connaît très peu ce territoire sur lequel il y a plus d'une trentaine de casinos et où l'économie casinotière s'est développée très largement à partir du moment où les jeux d'argent ont été interdits en Turquie à la fin des années 90. Et là, on a vu une bascule, déplacement des capitaux depuis la Turquie continentale vers la partie nord de l'île de Chypre, partie nord donc qui est reconnue uniquement par la Turquie comme étant un État indépendant, la République turque de Chypre du Nord. Et dans sur ce territoire, cette trentaine de casinos, avec, je le disais, des capitaux en provenance de Turquie, mais pas uniquement, hein, en provenance de Russie également, ça représente beaucoup d'amendes d'emploi, hein, presque 20 000 emplois, et puis ça représentait en 2019 des revenus de l'ordre de 600 millions de dollars par an pour le gouvernement de ce petit territoire, dont le PIB est de l'ordre de 4 milliards de dollars. Donc on voit que c'est un poids très important un poids économique, mais c'est aussi subi de la part de la population nord-chypriote comme une autre forme d'occupation. Quand on a fait nos enquêtes à Chypre Nord, il était très net qu'il y avait comme une forme de dissociation de la part des habitants entre la réalité de cette économie touristique très tournée sur les casinos et de façon liée aux casinos, des nightclubs entre guillemets qui sont en fait des maisons closes, hein, et le discours du ministre du tourisme local qui lui ne parlait que de jolies plages et de monuments historiques parce que la population nord-chypriote n'a pas de prise sur cette économie casinotière, ni dans les capitaux, ni même les gens qui y travaillent. Donc souvent on nous disait oui mais c'est une autre forme d'occupation. On a les militaires turcs et puis on a les casinos qui nous occupent aussi.
Pascal Nedelec.
À écouter ce panorama mondial établi par Marie Redon, on se rend compte qu'on a toujours un peu les mêmes tensions, avec un effet de relégation spatiale, de contingentement d'une activité qui reste souvent condamnée moralement ou qui est associée à tout un ensemble, si ce n'est illégal, au moins interlope, et pour autant une manne économique et un levier de développement. Donc on a toujours, dans tous les cas qui ont été évoqués, cette dualité, ce paradoxe de vouloir limiter dans l'espace une activité qui rapporte, somme toute, beaucoup d'argent.
C'est le cas aussi de la Crimée, où se trouvent un certain nombre de casinos à l'écart de la Russie. On arrive presque au terme de cette émission. Peut-être un mot sur l'essor du casino en ligne. Comment les casinos de Las Vegas réagissent-ils face à cette concurrence, Pascal Nedelec?
Alors, je ne sais pas si je parlerai de concurrence, parce que l'offre et la pratique concrète n'est pas du tout la même, notamment dans le contexte de Las Vegas, où on vient jouer, certes, mais pas que. Mais c'est sûr que ça a beaucoup fait parler à l'échelle de l'État, puisque là encore, ça relève de législation fédérale, à l'échelon fédéral. Vous avez un débat politique pendant plusieurs années sur est-ce qu'il faut légaliser, comment est-ce qu'on impose et comment on réglemente ce nouveau secteur du jeu qui n'a pas besoin de l'emprise physique de casino pour avoir lieu. Du coup, c'est pas du tout les mêmes logiques, c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes joueurs non plus. Donc ça a fait beaucoup parlé. Finalement, la plupart des États aux États-Unis ont légalisé une forme de jeu en ligne, mais on se rend compte qu'on est vraiment, on bascule dans un autre type d'activité économique sans cette emprise physique du casino.
Marie Redon.
Oui, moi j'insisterai aussi sur le rôle des institutions publiques, de la puissance publique et des États. On a l'impression, on a parlé d'entreprises, de flux, de capitaux, etc. Mais un des acteurs quand même, l'acteur presque majeur dans tout ça, ce sont les États, puisque l'ambiguïté de cette industrie, qui est à la fois néfaste par certains aspects, mais qui a une forme d'utilité publique, en tout cas économique, par les prélèvements qui sont effectués, fait que ce sont les États donc qui édictent ce principe hein, d'interdire ou d'autoriser avec la notion un peu d'innocuité hein, dont vient de parler Pascal Nedelec, c'est-à-dire c'est ici, c'est pas ailleurs. Et ce qui est de plus en plus net, nous semble-t-il, c'est que on a paradoxalement presque un effacement d'un état social, disons, qui laisse le citoyen de plus en plus responsable face à ses choix de consommateurs et ses choix de joueurs. C'est vraiment le slogan du jeu responsable. Mais face au jeu responsable, ce sont bien les États qui autorisent, qui régulent, qui délimitent, qui circonscrivent la pratique du jeu.
Et justement, je vous propose de nous quitter avec un dernier témoignage.
Là, pas du gain. C'est un vice. Comme on dit ça, c'est une réalité.
Un jour, je suis parti à Dieppe avec ma copine. Le premier soir que j'arrive là-bas, je vais avec 2000 euros au casino, je perds tout. Même pas 20 minutes, je perds tout. Je repars à l'hôtel, je reprends 2000 euros. Je perds tout encore. Je prends ce qui me reste, c'est-à-dire un peu moins de 2000 euros. Je pars au casino, je perds tout. 500, ça va vite. Parce que je ne vais que par 1000 là-bas. La roulette, tout le temps la roulette, moi je ne joue que à la roulette. C'est un truc de malade. Au final, ouais, je me suis retrouvé à perdre plus de 6000 euros puisque j'avais repris de l'argent. C'est comme si tu les avais jetés, tu vois. Donc, dans ce milieu, quand tu rentres au casino, mais tu perds la notion et la valeur de l'argent. C'est des jetons. Enfin, un billet de 50, ça devient un jeton ou quelques jetons. C'est-à-dire que t'es pas là à dire, oh, t'as placé 50 ou 2 billets de 50 sur un numéro, sur une case ou quoi. Tu perds la notion, la valeur de l'argent. Et c'est un truc de fou parce que c'est un engrenage. T'es dégoûté de la vie, tu vois. T'en veux à quelqu'un. Mais en fait, la vraie personne, le vrai coupable, c'est toi.
Merci beaucoup Pascal Nedelec et Marie Redon de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci pour vos éclairages précieux. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage Marie Redon avec Boris Lebeau, Géopolitique des jeux d'argent au cavalier bleu. Pascal Nedelec, vous êtes l'autrice de celui-ci, Las Vegas dans l'ombre des casinos, déconstruire l'urbanité et la citadinité végasienne aux presses universitaires de Rennes. Demain, nous nous pencherons sur l'économie selon Nollywood, le cinéma nigérian. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.